Europe 1, le 22-22-30,
Julien Pierce.
Bonsoir et bienvenue sur Europe 1, c'est le journal de la nuit, tout ce qui s'est passé aujourd'hui et tout ce qui se passera demain. C'est parti pour 30 minutes d'info. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne.
Le confinement de l'Île-de-France est sur la table. Jean Castex ne l'exclut pas. La décision sera prise demain en Conseil de défense. Mais avant de trancher, Emmanuel Macron consulte à tout va. Réunion avec le Conseil scientifique et des médecins réanimateurs pour voir s'il reste des marges de manœuvre. La France suspendue à l'avis de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin AstraZeneca. Décision jeudi. En attendant, la directrice de l'EMA se veut rassurante. Pour l'heure, les bénéfices sont supérieurs aux risques. Se tester chez soi avec un prélèvement dans le nez, ce sera bientôt possible. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert aux autotests, rapides et moins désagréables que les PCR ou antigéniques. Ils n'ont pas encore de date de réouverture, mais ils ont un plan de réouverture. Restaurateurs, hôteliers et patrons de bars ont obtenu du gouvernement un peu de visibilité. Leur retour aux affaires se fera en 3 étapes. Dans ce journal également, le suicide d'un collégien de 11 ans accusé d'avoir harcelé l'un de ses camarades. Thomas Pesquet prend du galon. L'astronaute va devenir le premier commandant français de la Station Spatiale Internationale. Et puis Dieu est de retour. Voilà comment Zlatan Ibrahimovic annonce qu'il revient en sélection nationale suédoise après 5 ans d'absence. La météo, elle restera agitée demain sur le nord-est avec giboulées et chutes de neige. Mais le soleil va faire son retour à l'ouest, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris, elle a clôturé ce soir en hausse, plus 0,32% à 6055 points. Et tous les détails à venir dans Top à Wall Street avec Didier Hamo de boursier.com. L'interview Echo dans 20 minutes. Les magasins et fabricants de ski estiment avoir perdu 1 milliard d'euros depuis le début de la pandémie. Pour en parler, Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Virgile Caillet, directeur général de l'Union Sport et Cycle, qui représente le secteur. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ça se précise, Jean Castex, invité ce soir sur BFM, a évoqué la situation sanitaire, notamment en Île-de-France, où tous les indicateurs sont au rouge. Et le chef du gouvernement ne s'en est pas caché, l'option confinement est sur la table.
Les mesures que nous avons prises pour faire face à la situation dans les Alpes-Maritimes ou au Pas-de-Calais, ces mesures, on les a fondées sur un certain nombre de critères. Nous constatons aujourd'hui, malgré nos efforts collectifs, que là, on est dans une situation préoccupante, critique et très clairement des mesures du type de celles que nous avons utilisées ou auxquelles on a eu recours dans les autres parties du territoire sont très clairement sur la table ce soir.
Ça veut dire que ce soir,
un confinement le week-end en Île-de-France est une hypothèse qui est sur la table ce soir.
Ce que je vous dis, c'est que il y a demain matin un conseil de défense, nous allons en discuter, mais il me semble en tout cas qu'effectivement le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne.
Le moment est venu pour envisager des dispositions pour l'Île-de-France, les taux se resserrent donc et les arbitrages seront faits demain en Conseil de défense. Et en attendant, Emmanuel Macron consulte à tout va. Le président s'est entretenu tout à l'heure avec une délégation du Conseil scientifique. Mais ce n'est pas tout, Jean-Rémy Baudot. Le chef de l'État avait aussi une autre réunion importante à l'agenda.
Oui, Julien, une réunion pour peaufiner la réponse du gouvernement face à une situation qui devient de plus en plus délicate d'un point de vue sanitaire, mais aussi politique. Réunion avec les réanimateurs de zones où la tension Covid est forte, Île-de-France, Hauts-de-France, PACA. Emmanuel Macron voulait des retours d'expérience précis sur la situation sur place. Il s'agit en fait de s'assurer qu'il y a encore des marges de manœuvre pour gérer la situation en évitant la case confinement. 2 pistes avancées au sommet de l'État, pousser encore les murs dans les hôpitaux avec plus de lits, plus d'hospitalisation dans le privé. Et l'autre piste, c'est d'augmenter le rythme des transferts vers les zones qui sont moins saturées. Le résultat de ces discussions, de la soirée à l'Élysée, tout ça, ça alimentera le Conseil de défense Covid qui se tient demain. Mais on est clairement dans la stratégie mise en place depuis plusieurs semaines, tout faire pour repousser, pour éviter un éventuel confinement, qu'il soit de semaine ou de week-end, gagner du temps, laisser le vaccin prendre le relais. Comme le confiait une ministre aujourd'hui, tant que le système hospitalier tient, on tient. Voilà l'idée développée à l'Élysée.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. La transparence à outrance est-elle en train de créer de la défiance? C'est la question que l'on peut se poser alors que le vaccin AstraZeneca et ses éventuels effets secondaires sont en ce moment sous les microscopes des experts de l'Agence européenne des médicaments. La France et de nombreux autres pays européens ont suspendu les injections en attendant l'avis définitif de l'EMA. Ce sera jeudi. Mais dès aujourd'hui, la directrice du régulateur européen a communiqué. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Objectif de cette prise de parole, rassurée.
Oui, Emmer Cook a commencé avec un message. L'agence reste aujourd'hui encore fermement convaincue que les avantages du vaccin l'emportent sur les risques. Malgré tout, d'ici jeudi, les experts vont éplucher chaque cas de façon approfondie. Ça fait partie du travail normal de pharmacovigilance, a tenu à préciser la directrice de l'agence européenne.
Une situation comme celle-ci n'est pas une surprise. Quand vous vaccinez des millions de gens, c'est inévitable qu'il y ait des cas rares ou sérieux de maladies qui apparaissent dans les jours après la vaccination. Notre rôle, c'est d'enquêter au plus vite sur ces cas suspects avec une question en tête. Est-ce que c'est vraiment un effet indésirable du vaccin ou est-ce que c'est une coïncidence ?
Pour le savoir, les experts vont chercher d'éventuels points communs entre les patients atteints de thrombose, regarder s'ils ont des spécificités médicales, ils vont comparer les durées entre la vaccination et la formation des caillots. Bref, ils vont chercher un lien de cause à effet. On aura la réponse jeudi et si ce lien existe, l'agence précisera ses recommandations d'utilisation du vaccin. Mais ça ne sera pas sous la pression de l'émotion. La directrice de l'agence le martèle. L'expertise européenne est indépendante et uniquement basée sur la science.
Isabelle Horry. En attendant d'en savoir plus, l'exécutif tente de rassurer les Français déjà vaccinés avec AstraZeneca. Ils ne sont pas en danger, martèle Olivier Véran, qui a lui-même reçu une injection de ce sérum. Jean Castex, lui, joint le geste à la parole. Si l'EMA donne son feu vert jeudi, alors le Premier ministre se fera vacciner très rapidement avec AstraZeneca pour montrer l'exemple. Autre source d'inquiétude, la découverte d'un nouveau variant, le variant breton. Il a été identifié post-mortem sur 8 patients décédés au CHU de Lannion, dans les Côtes d'Armor. D'après les premières analyses, il ne serait ni plus dangereux, ni plus contagieux, mais il aurait la particularité de ne pas être bien détecté par les tests PCR. Et à propos de tests, nous en avons un nouveau depuis aujourd'hui. Il sera bientôt possible de se tester chez soi, sans l'aide de personne. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert aux autotests par prélèvement nasal. Et au-delà de leur côté pratique, l'avantage, c'est qu'ils font moins mal que ceux que l'on fait en pharmacie ou en laboratoire, Anne Le Gall.
Oui, car on enfonce moins profondément l'écouvillon dans le nez, 3-4 cm environ. Le résultat se lit comme sur un test de grossesse. Il apparaît en une vingtaine de minutes. La Haute Autorité de Santé a rendu un avis favorable pour leur utilisation dans deux situations, explique le professeur Dominique Le Guludec, la présidente de la HAS.
Dans la sphère privée, c'est-à-dire par exemple avant une réunion de famille, mais évidemment pas à 15. Et puis les tests rapides pour dépistage ciblé, pour aller débusquer le virus, par exemple dans des lycées, des facultés, un immeuble. Dans ce cas, on l'utilise en complément des autres tests.
Et en cas de résultat positif, les patients devront obligatoirement faire un test de confirmation par PCR pour confirmer le résultat et rechercher d'éventuels variants. Pour la HAS, ces tests devront cependant être réservés aux plus de 15 ans, car l'anatomie du nez pourrait modifier le résultat chez les plus jeunes et on manque pour l'instant de données cliniques à ce sujet. Mais contrairement à ce qui se passe en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas ou en Angleterre, ces tests ne sont pas encore disponibles en France car avant d'arriver sur le marché, ces autotests doivent être validés par l'agence du médicament à la demande de leurs fabricants.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. L'addition, s'il vous plaît, voilà une phrase que nous n'avons plus prononcée depuis 137 jours exactement, depuis le deuxième confinement et la fermeture des bars, hôtels et restaurants. Cela fait donc 4 mois que toutes ces professions sont à l'arrêt et réclament de la visibilité, un protocole applicable en cas de reprise, un plan de réouverture. Eh bien ça y est, il est servi et ça se passera en 3 phases, Élise Dangean.
Absolument, 3 phases d'un mois chacune. Il faudra donc un trimestre entier pour retrouver une quasi-liberté. La première étape de ce protocole ne concerne que les clients des hôtels. Ils pourront prendre leur petit déjeuner dans la salle de restaurant de l'établissement. Un mois plus tard, les bars et restaurants pourront rouvrir avec une jauge à 50% de leur capacité à l'intérieur pour les deux, mais aussi en terrasse pour les bars. Cette étape intermédiaire est capitale, vous l'aurez compris. Si elle se passe bien, le gouvernement pourra lever les jauges. Mais attention, il faudra toujours respecter le fameux mètre de distanciation entre les tables et ça, de la phase 1 à la phase 3. Les clients seront également priés de scanner un QR code avec leur téléphone afin de tracer les éventuels cas. C'est donc un protocole progressif qui sera mis en place dès lors que le gouvernement donnera son feu vert. Feu vert qui va dépendre de deux facteurs. Le nombre de cas positifs au Covid-19 dans le pays et le nombre de vaccinés. Pour le moment, on ne connaît pas les seuils. Trop d'incertitudes à ce stade, mais le gouvernement y travaille.
Merci Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Écoutez le monde changer. Europe Soir. Le 22-22-30.
L'actualité ce soir, c'est aussi ce drame à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Un collégien de 11 ans s'est défenestré et a succombé à ses blessures. Il venait d'être convoqué pour avoir harcelé l'un de ses camarades, Gladys Laffitte.
Oui, ça s'est passé hier en fin d'après-midi chez ce jeune garçon de 11 ans. Il s'est jeté par la fenêtre du 4e étage de l'immeuble. Selon les premiers éléments de l'enquête, il venait de se faire disputer et gifler par sa mère parce qu'il était accusé d'harceler l'un de ses camarades de classe de 6e. Un peu plus tôt dans la journée, le collège l'avait convoqué avec sa mère pour qu'il s'explique et surtout pour le punir, pour l'exclure temporairement. Une fois rentré à la maison, donc, la dispute a éclaté. Sa mère l'a envoyé dans sa chambre, elle est partie prendre une douche et c'est pendant ce laps de temps que le jeune garçon a écrit une lettre d'excuse à l'attention de son camarade de classe qu'il avait harcelé, puis il s'est défenestré. C'est un voisin qui est venu prévenir la mère. Malgré son transport à l'hôpital, le garçon est décédé dans la soirée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Le Covid pourrait entraîner le report du procès de l'affaire Big Malion. L'audience doit débuter demain, mais deux cas positifs dans les rangs de la défense pourraient reporter son ouverture. Cette affaire concerne des soupçons de financement illégal de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. C'est une première étape de franchie. Les députés ont largement validé l'inscription du climat dans la Constitution. Ils ont adopté le projet de loi visant à interroger les Français par référendum sur la modification de l'article 1er de la Constitution. Il s'agit d'y graver que la France garantit la préservation de l'environnement, comme l'a promis Emmanuel Macron à la Convention citoyenne sur le climat. Il revient maintenant au Sénat de voter le texte. Il n'avait récolté que 1,21% des voix en 2017, mais Jean Lassalle repart pour un tour. L'iconoclaste député béarnais annonce être candidat à la présidentielle de 2022 avec une ambition, incarner la joie malgré la crise. Pour moi, la politique est un art et malheureusement, il n'y a plus beaucoup d'artistes, assure l'ancien berger. Venons-en maintenant à cet homme qui a tout pour agacer certains. Il est beau, intelligent, astronaute et en plus, il prend du galon. Thomas Pesquet sera le prochain commandant de la Station Spatiale Internationale et c'est une première pour un Français lors d'Autriche.
Oui, et il sera donc le premier Français à commander un véhicule spatial. Ils sont 6 astronautes dans la Station Spatiale Internationale. Il y a un seul maître à bord, dit Thomas Pesquet, et il est très content parce que ce sera lui.
Quand il faut réagir vite, eh ben c'est le commandant qui décide, en fait, qui assigne un petit peu les tâches. Par exemple, si on veut faire face à un départ de feu, un incendie, une dépressurisation, eh ben toutes les procédures d'urgence elles sont menées un peu à la main ou au rythme du commandant de la station. C'est ça le rôle qu'on attend du commandant et qu'on attendra de moi à la fin de la mission.
À bord, l'astronaute français mènera une centaine d'expériences, dont une pour étudier le vieillissement dans l'espace. On parle parfois de ce vieillissement accéléré, mais réversible quand on revient sur Terre. Thomas Pesquet partira avec 8 ou 9 mini-cerveaux, un assemblage de cellules pour essayer de mieux comprendre les effets sur le cerveau de la vie dans l'espace. Enfin, comme lors de sa première mission il y a presque 5 ans, le chef Thierry Marx va lui préparer des plats qu'il emportera. Plusieurs menus vont être préparés, dont des plats qui plaisent particulièrement à Thomas Pesquet, du risotto, du bœuf bourguignon ou encore de la tarte aux pommes.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Départ de Thomas Pesquet pour l'ISS le 22 avril pour une mission de 6 mois. Lui aussi peut être agaçant, mais là c'est pleinement assumé. Zlatan Ibrahimovic est extatique car 5 ans après avoir pris sa retraite internationale, il va faire son retour en sélection suédoise et l'attaquant a tenu à le faire savoir, Cyril de la Morinerie.
Oui, Zlatan l'a annoncé lui-même sur Twitter. Il a fait preuve, comme d'habitude, d'une grande modestie. Je cite « Le retour du dieu ». Cela nous rappelle ses adieux au PSG, souvenez-vous. « Je suis venu comme un roi, je pars comme une légende ». Zlatan fait donc son comeback avec le maillot jaune suédois 20 ans après ses débuts, tout sauf une surprise. Depuis plusieurs mois, le footballeur originaire de Malmö faisait des appels du pied au sélectionneur qui lui a rendu visite à Milan. Car malgré son âge canonique, 39 ans, le géant d'1m95 est toujours aussi impressionnant. Au Milan AC, il totalise 16 buts en 21 matchs. Ce fan de Kung Fu en impose toujours sur le terrain, même s'il est actuellement blessé aux adducteurs. Il espère d'ailleurs être de retour jeudi avec son club italien en Ligue Europa contre Manchester United. Zlatan promet de tout zlataner, même si sans lui, la Suède jouait mieux. La sélection nordique avait atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde et s'était offert une victoire de prestige face à l'équipe de France.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. On termine avec la météo. Anissa Haddadi, la journée demain sera marquée par le retour du soleil à l'ouest.
Oui, bonne nouvelle Julien, ça y est, enfin le retour d'un peu de luminosité du Cotentin jusqu'à la Gironde, hein, tout le long de la façade atlantique, avec de belles éclaircies dès le début de la journée. Demain, au bord de la Méditerranée, le ciel reste dégagé et ensoleillé grâce au vent. Alors attention, ça veut dire que Mistral et Tramontane continuent de souffler fort demain. C'est dans le nord-est, encore une fois, sur les Pyrénées et le Massif central, que le temps est plus agité avec cette perturbation qui stagne avec de nombreux nuages, des averses et même des chutes de neige à partir de 600 mètres d'altitude dans le nord-est. Dans l'après-midi, l'instabilité du nord-est descend jusque sur la vallée du Rhône, l'Auvergne, avec des averses encore tout au long de l'après-midi. Ailleurs, et notamment le long de la façade atlantique et au bord de la Méditerranée, le soleil domine encore demain. Alors les températures, elles sont toujours fraîches dans le nord-est, avec moins 1 à 4 degrés, nous aurons 4 à 11 degrés partout ailleurs. Alors moins 1 pour Épinal, 2 degrés à Metz, 3 pour Clermont-Ferrand et Grenoble, 4 à Lyon, 5 pour Lille et Nîmes, 6 degrés à Paris et Quimper demain matin, 8 pour Toulouse et Bordeaux et 11 la maximale pour Perpignan. Au meilleur de la journée, c'est stationnaire, quasiment comme aujourd'hui, toujours de la fraîcheur dans l'Est, avec 6 degrés pour Saint-Étienne, 8 à Aurillac, 10 à Limoges, 11 à Paris, 12 degrés pour Cahors et La Rochelle, 13 à Bordeaux et Rennes, 15 degrés pour Manosque, 16 à Quimper et Marseille sous le soleil.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse. Top à Wall Street avec Didier Hamot de Boursier.com, suivi de l'interview Echo. Les magasins et fabricants de ski estiment avoir perdu 1 milliard d'euros depuis le début de la pandémie. Pour en parler, Emmanuel Duteil reçoit dans quelques minutes Virgile Caillet, directeur général de l'Union Sport et Cycle, qui représente ce secteur. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1, bienvenue à vous. Si vous venez nous rejoindre, c'est l'heure de Top à Wall Street.
Retrouvez Top à Wall Street avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Toutes les infos de la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street souffle ce soir en légère baisse après ses précédents records sur le Dow Jones.
Oui, très calme Wall Street qui attend le verdict de la Réserve fédérale américaine qui réunit son conseil monétaire aujourd'hui et demain. Le verdict c'est pour demain soir. La Fed devrait rester très prudente face à la hausse des taux à long terme au-delà des 1,60 ce soir sur l'emprunt à 10 ans. Donc peu de prise de risque sur le marché américain. Le Dow Jones, moins 0,39%, 32 826 points. Le Nasdaq, pratiquement stable, plus 0,08%, 13 471 points. Quelques valeurs en hausse quand même, comme Apple, plus 1,2% à $125,57. Microsoft, plus 1,2%. Facebook, plus 2% quand même. En revanche, ça baisse sur Tesla, le roi de la tech, moins 4,4%. Tesla à $676,88. Oracle perd 1,3%. IBM, moins 0,2%. Le pétrole revient en arrière, comme hier, moins 0,5%. Encore des prises de bénéfices sous les $65 le baril WTI. Et donc Exxon perd 2,1% à $59,11. L'euro aussi revient sur les 1,19 face au dollar.
La bourse de Paris a, quant à elle, légèrement progressé dans un marché plus calme.
Très calme, oui. Une hausse. Plus 0,32% quand même. 6055 points sur le CAC 40. Quelques valeurs se sont distinguées, comme Iliad. Free, donc, plus 4,5%. 160,65 € après de bons résultats en 2020. Et un dividende de 3 euros. Et puis, les valeurs industrielles remontent. Rexel, plus 5%. On a aussi Forestia, plus 3%. L'agence Standard & Poor's a relevé sa perspective sur l'équipementier automobile de stable à positive. Quelques grosses industrielles, comme Airbus, remontent encore d'1,7%. Nexans aussi et Air Liquide, plus 1,5%.
Exception du jour, le secteur pétrolier qui a perdu du terrain dans le sillage du baril de pétrole.
Oui, le pétrole sous les 65$ ce soir, donc des prises de bénéfices qui se confirment et tout le secteur baisse assez nettement. D'ailleurs, CGG moins 7% après une opération obligataire importante, moins 1,5% Vallourec, Total moins 1,3%, 40,76€, Technip aussi moins 3%, 7,06€ le secteur pétrolier en berne. Les autres places financières sont assez calmes aussi, hein. Le DAX prend quand même 0,6% à Francfort, Bruxelles est stable, Madrid plus 0,2, Milan plus 0,5, le CAC 40 en hausse de 0,32%, 6055 points.
Merci beaucoup Didier Hameau de boursier.com et à demain Didier. 22h21 sur Europe 1, on passe à l'interview éco. Emmanuel Duteil, c'est à vous.
Bonsoir Virgile Caillet.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le délégué général de l'Union Sport et Cycle qui représente bien évidemment ces secteurs du sport et du vélo, on l'entend bien. Et si on a voulu être en ligne avec vous ce soir, c'est que vous avez présenté ce matin un bilan détaillé de l'impact de la fermeture des stations de ski pour les magasins et pour les fabricants de ski. Le chiffre fait peur. 1 milliard d'euros perdus, c'est ce que vous avez quantifié ?
Alors, effectivement, oui, un an, 1 milliard, puisque cette conférence de presse se déroulait à une date symbolique. Ça fait un an que les stations de ski ont été fermées. Rappelez-vous, la saison, ou plutôt l'hiver 2019-2020, s'est arrêtée avec un mois d'avance. 17% de chiffre d'affaires perdu à ce moment-là pour tous les acteurs de la montagne, mais personne n'imaginait que cette crise sanitaire allait durer aussi longtemps. Et finalement, l'hiver 2020-2021, nous sommes quelque part à bientôt à la fin de cet hiver qui n'a jamais eu lieu, qui n'a jamais commencé, un hiver fantôme. Et pour les commerces, loueurs de matériel de ski, et pour les industriels, vous l'avez dit, eh bien, c'est une véritable catastrophe. Mais 1 milliard de pertes et un avenir extrêmement sombre.
Oui, parce que c'est ça presque le plus intéressant, si je peux dire, entre guillemets. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu de votre conférence de presse de ce matin, c'est le pire est à venir.
Oui, parce que, en fait, et c'est tout la discussion, le débat ce coup de gueule qu'on a vis-à-vis du gouvernement, c'est de faire entendre notre spécificité, ce modèle si singulier des acteurs de la montagne. Il y a une véritable saisonnalité. On ne rentre pas dans les mesures de droit commun qui sont proposées aujourd'hui par le gouvernement. Elles ne correspondent pas à notre modèle. Rendez-vous compte, les entreprises de la montagne, en 4 mois, font le chiffre d'affaires pour vivre 12 mois de l'année. Donc si elles n'ont pas l'occasion, comme cette année de façon tout à fait inédite, de réaliser de l'activité du business pendant 4 mois, eh bien on ne sait pas comment elles vont arriver à survivre les 8 autres mois de l'année.
Et c'est, oui, parce que vous dites qu'un tiers des commerces spécialisés de la montagne sont, selon vos mots, une fois de plus, en urgence absolue.
En urgence absolue, exactement, nous confirmons cette situation. C'est vrai pour les commerces et les loueurs de matériel de ski. C'est vrai aussi pour les industriels, parce que, bien entendu, quand il n'y a pas de remontée mécanique, on n'achète pas de ski. Les loueurs ne changent pas leur parc de matériel. Et c'est une catastrophe aujourd'hui, mais c'est évidemment une catastrophe pour l'hiver prochain, parce qu'il n'y aura pas eu de commandes.
Là, ce que vous voulez, ce sont des aides spécifiques à la hauteur du particularisme du monde du ski.
C'est exactement ça. Il faut que le gouvernement entende la singularité de notre modèle économique, entende que nous avons une vraie saisonnalité et aujourd'hui, on doit être accompagné entre le mois d'avril et le mois de décembre 2021, qui sont des mois où nous ne ferons pas d'activité. Et donc, comment faire si on n'est pas accompagné pour assumer nos charges fixes, nos coûts fixes? Tout le débat est bien là.
Qu'est-ce que vous répondent les pouvoirs publics? J'imagine que vous les avez sollicités et que vous n'arrêtez pas de les solliciter ces derniers mois.
Alors, vous avez raison, on a, je ne vais pas dire des dizaines, mais toutes les semaines, c'est 3-4 réunions avec le ministère de l'Économie, le ministère du Travail, puisqu'il y a des problématiques de saisonnalité, donc d'emploi saisonnier, le ministère des Sports, et même très régulièrement Matignon, le Premier ministre avec qui nous avons eu plusieurs réunions. Ils entendent notre modèle spécifique, mais aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés à trouver une solution adéquate, une solution, j'allais dire ad hoc, sur mesure, mais j'espère qu'on sera enfin entendu parce qu'il y va de la survie de toute une économie de montagne.
Parce que si jamais vous ne deviez pas avoir ces aides, ça veut donc dire, si je vous entends bien, des commerces qui vont fermer, puis surtout pas d'investissement, donc pas d'innovation, par exemple dans le monde du ski, parce que vous représentez également les fabricants de ski.
Alors vous avez parfaitement raison, Ça veut dire effectivement des magasins qui risquent de fermer. Hein. On en a déjà un certain nombre, malheureusement, qui se retournent vers les tribunaux de commerce. Et puis, pour ce qui concerne l'industrie, des années de perdues en termes d'innovation et probablement également des licenciements, une perte de savoir-faire. C'est une véritable catastrophe. La France, vous le savez, est un pays qui est sur le podium des journées de ski au niveau mondial. Eh bien là, ce serait une véritable reculade et ça serait bien triste pour notre pays.
Et ce qu'on entend de ce que vous dites, c'est que les sports annexes, par exemple le ski de fond, la raquette, tout ça, n'est pas du tout venu compenser la perte de chiffre d'affaires du ski alpin.
Il y a eu effectivement beaucoup de reportages qui ont un petit peu biaisé le regard, la compréhension de l'opinion publique par rapport à ce qui s'est passé en montagne. Bien évidemment, des gens ont pris des raquettes ou des skis de randonnée, mais ça représente à peine 10-15%. Le constat pour le commerce et les loueurs de matériel de ski, c'est moins 73% sur l'hiver 2020-2021. Moins 73% et en regard des aides qui représentent 5% du chiffre d'affaires. Vous voyez un petit peu le décalage qui existe aujourd'hui et bien entendu, ces entreprises ne pourront pas survivre si elles ne sont pas accompagnées entre le mois d'avril 2021 et le mois de décembre 2021.
Même si on peut estimer que ça va repartir très fort l'année prochaine, mais je pense que vous allez me dire que d'habitude, on est à 100% de remplissage, donc on ne pourra pas surcharger plus que de nature les stations de ski.
Mais l'ambition, l'objectif de demander des aides, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'arriver à survivre, d'être sur la ligne de départ en décembre 2021. L'enjeu, il est véritablement là. Et pour les industriels, on a des fleurons français, Rossignol, Salomon, nous avons plein de marques exceptionnelles sur le territoire français. Et ça serait dommage de les voir disparaître ou de les voir restreindre en fait leur activité parce qu'elles n'auront pas eu le soutien nécessaire dans cette période si difficile.
Eh bien, merci pour tous ces détails. C'était Virgile Lecaillet, le délégué général de l'Union Sport et Cycle. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci beaucoup, Emmanuel Duteil. On vous retrouve également demain à 13h dans La France Bouge avec Elisabeth Assayag. Et pour les 1 an du premier confinement, vous vous intéresserez à comment cette crise a modifié notre façon de travailler. Votre invité, Jean-Claude Delgène, le président fondateur de Technologia, expert en santé et sécurité au travail. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Covid, le maître du temps perdu, titre Libération avec pour photo Emmanuel Macron, tête baissée et masque sur le visage. Polémique sur le vaccin AstraZeneca, taux d'incidence en hausse, le pari du chef de l'État de ne pas reconfiner est-il toujours tenable, se demande Le Quotidien, dont les premières pages sont une suite de questions sans réponse. Et c'est une une similaire que nous offre Le Figaro. Vaccin, confinement, Macron sous pression, titre le journal. Au matin d'un nouveau conseil de défense sanitaire et à la veille de la décision de l'Agence européenne des médicaments sur le vaccin AstraZeneca, le chef de l'État s'interroge sur la nécessité d'un reconfinement francilien. Et c'est bien ça le problème pour Vincent Trémollet de Villers. L'indécision, le variant français comme il l'appelle. Des précautions, encore des précautions, toujours des précautions, enrage l'éditorialiste. Alors il ne s'agit pas, écrit-il, d'être imprudent ni bravache, mais simplement de rappeler à ceux qui nous gouvernent qu'il n'y a pas d'exercice du pouvoir sans prise de risque, de rappeler aux citoyens infantilisés qu'il n'y a pas d'existence sans danger. Car pendant ce temps, pendant qu'on s'interroge, qu'on pèse, qu'on sous-pèse, Boris Johnson lui avance au grand galop, homologation plus rapide, espacement des doses, maintien du vaccin AstraZeneca. Dans son pays, on compte aujourd'hui près de 25 millions de premières injections contre 5 millions chez nous. Seul antidote contre ce variant français de l'indécision, le courage, conclut l'édito du Figaro.
C'était les unes du lendemain avec la qualité de la 5G Bouygues Télécom.
Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Comme d'habitude, tout va bien.
3921 pour vous appeler et témoigner dans la libre antenne.
Exactement. Et puis nous, on vous retrouve très vite dans une demi-heure pour votre flash. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.